Le mot sol nous est familier, mais dans le langage courant, il est souvent utilisé dans des expressions malheureuses. Le vocable sol est même parfois banalisé jusqu'à en oublier sa réalité de système vivant. Pour certains, le sol est une surface inerte que nous foulons sous nos pieds, un fournisseur de matériaux divers, une structure géologique, un terrain pour y construire une maison ou un hébergeur de divers réseaux de communication. Pour d'autres, il s'agit d'une surface sur laquelle poussent des végétaux et circulent des animaux. La réalité est plus complexe. Le sol est un écosystème vivant. Il s'agit même d'un des écosystèmes majeurs de la planète, car il se situe à l'interface des autres écosystèmes, l'atmosphère, la lithosphère, qui est l'ensemble des roches, l'hydrosphère, qui est l'ensemble des eaux continentales et océaniques, et aussi de la biosphère, qui est constituée par l'ensemble des animaux et végétaux et des micro-organismes. L'appréhension de la réalité du sol, la compréhension de son fonctionnement sont vitales pour aborder la transition écologique qui s'impose et aussi pour sortir de l'impasse dans laquelle sont engagés nos systèmes de développement, nos systèmes agricoles et alimentaires. Les sols constituent l'un des habitats les plus complexes, les plus peuplés et malheureusement aussi l'un des moins bien compris des écosystèmes terrestres, car il est peuplé par un monde en grande partie invisible à l'œil nu. Les êtres vivants du sol ne se limitent pas aux lombrics ou aux larves d'insectes. Le sol héberge en effet des centaines d'espèces de petits invertébrés, de collemboles, de protozoaires, de champignons, d'actinomycètes, d'algues, de bactéries et d'archées. Selon la taille des organismes, on distingue ainsi la macro, la méso et la microfaune qui constituent l'ensemble des animaux et la pédoflore et la microflore formées par l'ensemble des micro-organismes. Dans une poignée de terre, on dénombre plus d'êtres vivants que d'humains sur la planète. Ainsi, par exemple, dans un gramme de terre, on trouve 10 milliards de cellules microbiennes. Les organismes vivants se répartissent spatialement selon les gradients physico-chimiques et la structure du sol. Cette répartition est fondamentale pour la vie de l'écosystème. Certains micro-organismes vivent dans la partie supérieure oxygénée du sol, alors que d'autres vivent dans la zone profonde, anoxique, privée d'oxygène. Une grande partie des micro-organismes est associée aux racines des plantes et forme la rhizosphère. Les champignons associés aux racines forment les mycorhizes, dont le rôle est fondamental dans la vie des arbres et des plantes. Le sol est une véritable usine de la vie. Les êtres vivants du sol exercent des fonctions majeures pour la vie terrestre. La première consiste à dégrader et minéraliser toute la matière organique tombée ou apportée au sol, provenant des végétaux cultivés ou sauvages, ou des animaux morts. Cette action se fait selon un processus complexe qui met en jeu tour à tour toutes les catégories d'êtres vivants, chaque catégorie exerçant une fonction spécifique de la dégradation. Ce travail est appelé chaîne trophique. Il résulte d'une organisation temporelle, spatiale, fonctionnelle, rigoureuse et stricte de l'écosystème. Les actions exercées par les différents êtres vivants aboutissent à la formation d'humus qui assure la structuration du sol, notamment par la formation de complexes argilo-humiques qui contribuent à la porosité du sol et donc à la circulation de l'eau. La dégradation des molécules complexes formant cet humus par les micro-organismes enrichit le sol en minéraux indispensables à la croissance des végétaux. Cette décomposition de la matière organique nourrit tous les êtres vivants de l'écosystème. Elle est indispensable à la circulation de l'énergie et de la matière dans le système. Les êtres vivants ont ainsi inventé le mécanisme de l'économie circulaire depuis l'origine des temps. L'apport de matière organique au sol est donc fondamental. En décomposant la matière organique, les organismes du sol, notamment les micro-organismes, participent à tous les cycles biogéochimiques de la planète. Leurs interventions dans les cycles du carbone et de l'azote sont particulièrement fondamentaux. À l'image de leur rôle respectif dans l'ensemble de la biosphère terrestre, les cycles du carbone et de l'azote sont au cœur du fonctionnement de l'écosystème sol. Ces cycles complexes se déroulent en plusieurs étapes, chacune assurée par des micro-organismes spécifiques. Au cours de ces processus se forme une grande diversité de molécules qui servent de nourriture aux différentes espèces de l'écosystème. Le cycle du carbone est intimement lié à celui de la matière organique dont il est un composé majeur. Il implique l'intervention de tous les organismes du sol, notamment celle des champignons, des protozoaires, des bactéries aérobies et anaérobies. C'est au cours du cycle du carbone que sont formés le gaz carbonique et le méthane, qui sont des gaz à effet de serre. Il est donc important de comprendre ces cycles et de les maîtriser afin d'optimiser le stockage du carbone dans les sols et les émissions de gaz à effet de serre. Le cycle de l'azote met aussi en jeu un nombre de réactions chimiques importantes au cours desquelles l'azote passe sous divers états, ammoniac, nitrite, nitrate, protoxyde d'azote, azote gazeux. Comme le cycle du carbone, il implique l'intervention de champignons, de bactéries aérobies et anaérobies. Le nitrate formé au cours de ces réactions est la source préférentielle d'azote de la plupart des végétaux. Dans ce cycle de l'azote, il faut souligner le rôle joué par les bactéries qui vivent en symbiose avec les racines des légumineuses. En effet, ces bactéries fixent l'azote atmosphérique et elles transforment en ammoniac puis en nitrate. Elles accomplissent de ce fait un service gratuit et plus efficace que l'industrie chimique. C'est un service à optimiser impérativement. Au cours du cycle de l'azote se forme également, dans certaines conditions, du protoxyde d'azote, qui est un gaz à effet de serre. Via l'action des micro-organismes, le stockage du carbone ou la formation de gaz à effet de serre, le sol joue aussi un rôle important dans la régulation du climat. L'orientation de ces actions, bénéfiques ou délétères, dépend grandement des pratiques agricoles. Les organismes du sol impactent également fortement le cycle du phosphore. Au niveau mondial, les sols ne représentent que 12% des surfaces immergées et un tiers seulement de ces surfaces est cultivable. L'humanité est donc condamnée à gérer durablement le peu de sols exploitables qui existent. La plupart de ces surfaces cultivées sont en effet menacées plus ou moins gravement. La préservation des sols et de leur fertilité est une nécessité absolue si l'on veut garantir l'alimentation humaine et animale. À cette fin, il est temps que l'agriculture revoie certaines de ses pratiques, notamment celles utilisées par l'agriculture intensive ou industrielle. L'usage des produits chimiques, biocides, qui détruisent la vie du sol, et labours profonds qui déstructurent les communautés microbiennes, doivent être bannis. L'emploi d'intrants chimiques, notamment azoté, doit être réservé aux zones où ce composé est réellement limitant. Les alternatives à ces pratiques nocives et écocides existent. Elles sont connues. L'agroforesterie et les méthodes de l'agriculture biologique ont fait leurs preuves. La distribution de matières organiques d'origine végétale et de déjection animale indispensable pour la nourriture des êtres vivants de l'écosystème et donc de la fertilité du sol doit rester ou devenir une pratique courante. Ces matières ne doivent pas être destinées à des fins de production énergétique. La rotation des cultures doit redevenir une pratique courante, notamment pour éviter la propagation des indésirables. La culture des légumineuses, destinée à l'alimentation humaine et animale, doit être encouragée et valorisée. Ces plantes riches en protéines enrichissent le sol en azote. Elles doivent donc être incluses dans les rotations culturelles. En effet, si l'on veut conserver suffisamment de surfaces destinées aux cultures vivrières afin de garantir la sécurité alimentaire des populations humaines, il est impératif de stopper rapidement l'urbanisation galopante des terres cultivables. Il y va de la survie de l'humanité.